بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاعون إسلام نغمي اسم الله عز وجل كي ندن فسيبريتي donc de reprendre après une grande, une assez longue interruption, donc de reprendre ces programmes concernant les grands signes de Qiyama. On avait vu au début les petits signes de Qiyama, on avait vu quels sont les petits signes qui sont apparus depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à notre époque, et les petits signes qui se succèdent et qui perdureront jusqu'à l'apparition des grands signes de Qiyama. Et parmi les grands signes de Qiyama, on avait vu le premier de ces grands signes qui était la venue de Al-Imam Al-Mahdi. On avait expliqué qui était Imam Mahdi, de quelle origine était-il, qui était ses, il était descendant de qui, du prophète alayhi salatu wassalam, du côté de Fatima radiallahu anha. On a vu également dans quelles circonstances il va apparaître, quelle sera la situation du dunya, du monde, avant l'apparition de Imam Mahdi. Donc on a pu développer quelle était la mission de Imam Mahdi jusqu'à ce qu'on arrive au point qui nous permet de faire la jonction avec la venue de l'Antéchrist, avec la venue de Dajjal. Et ce point de jonction, comme on avait dit, c'était la conquête de Constantinople. Lorsque les musulmans se rendront dans cet endroit et que les musulmans auront l'aide d'Allah Azza wa Jal après cette victoire éclatante et la conquête de Constantinople, comme on avait expliqué avant, les musulmans entendront, ils entendront cette nouvelle qui s'avérera être fausse, que Dajjal maintenant est apparu. Et là, le imam enverra 10 parmi les meilleurs cavaliers de ce dunya à la recherche de la vérité, à la recherche de cette information. Ils se rendront compte que l'information était erronée, mais quelque temps après, Dajjal fera réellement son apparition. Alors, ce qu'on avait vu la dernière fois, la première fois, le premier programme concernant Dajjal, on avait vu la définition de Ibn Kathir, rahimahullah, qui définissait Dajjal comme étant « Rajulun min bani Adam ». Premièrement, un être humain descendant de Adam alayhi salam, c'est-à-dire un être humain comme vous et moi, et qui a l'apparence physique donc d'un humain. « خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِيَكُونَ مِحْنَةً لِلنَّاسِ » qui a été créé par Allah pour éprouver les gens. Pour éprouver les gens, pour voir qui c'est qui va suivre Dajjal, qui c'est qui va suivre les miracles que Dajjal va accomplir, et qui c'est qui va suivre les deux révélations, le Coran et la Sunna, qui a mis en garde les musulmans contre Dajjal. Il va donc apparaître qui après les Zaman, à la fin des temps. Et lorsque, de manière générale, on avait vu que lorsque le premier des grands signes de Qiyama apparaît, cela veut dire que la fin du monde est très proche. Parce que les grands signes de Qiyama se chevauchent. Les grands signes de Qiyama vont s'enchaîner avec la venue d'Imam Mahdi. À l'époque même d'Imam Mahdi viendra à Dajjal. Et à l'époque de Dajjal, descendra Isa alayhi salam. Et à l'époque de Isa alayhi salam apparaîtront Gog et Magog, et ainsi de suite. Les grands signes, hein, ils vont s'enchaîner, et à partir du moment où Imam Mahdi sera présent de ce dunya, on ne compte pas beaucoup d'années avant qu'Allah Azza wa Jal ordonne la destruction de ce dunya. Contrairement aux petits signes de Qiyama qui perdurent maintenant depuis 1500 années. Et par le biais de Dajjal, beaucoup de gens seront certes égarés. Ça, on a compris. Parce qu'on va voir, je viens de commencer donc. On va voir que, subhanallah, par le biais de Dajjal, il y a beaucoup de gens qui vont être égarés en voyant les miracles que cet homme va accomplir. Mais ce qui peut nous paraître paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver la guidée, il y a beaucoup de gens qui vont trouver la hidayah par les miracles de Dajjal. De quelle manière? On avait expliqué la première fois, c'est que en accomplissant tel et tel miracle, et entre autres le miracle peut-être le plus impressionnant, c'est donner la vie et la mort, chose qui appartient à Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas oublier que Dajjal, c'est dans cette umma la seule créature qui osera dire que je suis votre créateur, je suis Allah. Avant lui, qui c'est qui l'avait dit? Salih. Qui avait dit que je suis votre Dieu avant Dajjal? Pharaon. Le dernier qui avait osé dire que je suis votre Dieu, c'est Pharaon. Et depuis, il n'y a plus personne qui a essayé de persuader les gens qu'il est le Créateur, qu'il est Allah. Et donc,
qu'on disait, c'est que le pouvoir de donner la vie et la mort appartient à Allah Azza wa Jalla. Et pour prouver aux gens qu'il a ces attributs divins, il va donner la mort à quelqu'un, chose que tout le monde peut faire, un meurtrier peut le faire facilement, mais il va redonner vie à cette personne, dans le but de convaincre les gens que c'est lui le créateur. Et donc, le mu'min, le musulman, qui aura lu les textes prophétiques concernant la venue d'Ajjal et ses miracles, il reconnaîtra là un miracle qui a été annoncé par notre prophète alayhi salatu wasalam. C'est le cas de ce jeune homme qui fera partie d'Ahl al-Madina, quelqu'un d'Ahl al-Madina, donc de la population de Madina, qui va défier Dajjal et qui sera tué et ressuscité par Dajjal. Et ce jeune homme-là, lorsqu'il sera ressuscité et que Dajjal lui demandera « Est-ce que maintenant tu attestes que je suis ton créateur ?» Il dira que ce que tu as fait renforce ma conviction sur le fait que tu es un menteur, car notre prophète nous avait annoncé qu'un homme viendra à une époque et fera telle chose. Ça c'est pour nous faire comprendre, à travers un exemple, qu'il y a des gens qui trouveront la hidaya en entendant parler des miracles de Dajjal. Et on dit bien en entendant parler, parce que concernant le fait de voir Dajjal, on avait expliqué aussi brièvement que le prophète a interdit aux musulmans d'aller voir Dajjal. Si on le prophète bien dit, si quelqu'un entend parler de Dajjal dans un endroit, surtout qu'il n'aille pas à la rencontre de cet homme, ne serait-ce que pour voir les miracles qu'il accomplit. Parce que vous savez, dans le fond, nous disons musulmans, hein, nous sommes persuadés d'être des bons musulmans, nous sommes persuadés d'être des adorateurs d'Allah Azza wa Jal, mais réellement ce iman qui siège dans notre cœur, ce iman, cette foi qui est dans notre cœur, hein, qu'est-ce qu'elle vaut vraiment? Qu'est-ce que ce iman vaut par rapport au iman de sahaba? Il y a des fois une personne peut être persuadée d'avoir le yaqin en la présence d'Allah, que Allah est son créateur, mais Allah seul le sait que la personne peut voir des choses qui dépassent son entendement et qu'ils finissent par accomplir le kufr et mourir dans le kufr et suivre les milliers et de milliers et de milliers de personnes qui feront partie des disciples, voire parfois même de l'armée de Dajjal. Et donc, on avait vu également que la totalité des Anbiya alayhi salatu wa salam, depuis Nuh alayhi salam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa salam, ils ont mis en garde leur communauté contre la venue un jour. Ils ont expliqué qu'un jour viendra un homme qui se prénommera Dajjal et qui fera telle chose. Mais le prophète qui avait le plus de science sur la venue de Dajjal, celui qui a le plus expliqué à sa Ummah, qui a le plus mis en garde sa Ummah contre la venue de Dajjal, c'était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous prouve également la supériorité de notre prophète en termes de iman, bien sûr, en termes de makana, de manzila, mais également en termes de ilm, en termes de connaissances religieuses par rapport aux autres anbiya alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal lui a donné un quota de connaissances qu'aucun autre prophète n'avait eu, et principalement concernant les signes de la fin des temps. Et on a vu également, c'était le dernier point qu'on avait abordé, que le prophète alayhi salatu wassalam a décrit Dajjal comme étant le plus grand fitna de la création, la plus grande source de turpitude, la plus grande source d'égarement de toute la création d'Allah. C'est cet homme, cette créature d'Allah qui viendra à la fin des temps, Al-Masih Ud-Dajjal. Maintenant qu'on vient d'expliquer que c'est le plus grand fitna de la création d'Allah Azza wa Jal, on peut se poser à juste titre la question: pourquoi est-ce que le Coran ne mentionne pas clairement la venue de Dajjal? Avec le nombre de hafiz qu'on a ici, est-ce que dans un verset du Coran, il est cité Ad-Dajjal? Iqbal? Non. Même si j'adore les Yad de Payan, mais dans le Coran, il n'est pas mentionné le nom de Dajjal. Alors on peut se poser la question, malgré le fait que ce soit un grand fitna, que beaucoup de gens vont quitter le din en voyant Dajjal, pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala n'a pas cité clairement Dajjal? Alors, Ibn Kathir, rahimahullah, c'est bien Ibn Kathir, rahimahullah, il explique qu'il y a un verset du Coran, dans la sourate Al-An'am, qui fait référence à la venue de Dajjal. Lorsque la fait le Coran, يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal explique que, je n'ai pas la traduction littérale, mais ça veut dire en ce sens que lorsque viendra des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment, celui qui n'avait pas la foi ne pourra plus porter iman en Allah. Et Imam Tirmidhi rahimahullah, il rapporte un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam va commenter ce verset. Il commente ce verset en disant qu'il y a certains signes qui, lorsqu'ils apparaîtront à la fin des temps, personne ne pourra plus apporter iman après ça. Et parmi ces signes, Ad-Dajjal, Wad-Daba, Wat-Tulu'i Shamsi min al-Maghrib, ou min Maghribiha. C'est-à-dire, dans le verset, on a dit que lorsque viendra certains signes d'Allah, à ce moment-là, personne ne pourra plus apporter iman. Ça veut dire que ce sera trop tard. Mais le Coran n'explique pas quels sont ces signes. Mais le hadith du prophète, alayhi salam, hadith qui est authentique, rapporté par Imam Muslim et par Tirmidhi, dans ce hadith, notre prophète explique qu'il y a trois signes, que lorsque ces signes seront passés, quelqu'un ne pourra plus attester la ilaha illallah, ce sera trop tard. Et parmi ces trois signes, il y a l'apparition de Dajjal, l'apparition de Ad-Daba, la bête, ça c'est un autre grand signe de Qiyama, et lorsque le soleil se lèvera à l'est. Lorsque le soleil se lèvera à l'est. Et les ulama, rahimahumullah, à l'ouest. Petit problème entre l'est et l'ouest. Si ça n'en tenait qu'à moi, ce serait tous les jours le Qiyama, d'accord? Lorsque le soleil, ça prouve aussi, on habite dans des immeubles, on ne voit pas le lever du soleil, on ne voit pas le coucher du soleil. C'est pour ça qu'on a du mal à distinguer parfois l'est et l'ouest. Le nord, ça va, parfois au Qibla, alhamdoulilah. Donc, les ulama, rahimahumullah, ils nous rappellent un principe dans Ulum al-Hadith, que les hadiths ont pour objectif également de commenter Mujmal al-Qur'an, de commenter ce qu'Allah Ta'ala a cité de manière, on pourrait dire de manière brute de le Coran. Il y a des choses, il y a des versets dans lesquels Allah Ta'ala fait passer des messages sans qu'il y ait de détails. Et l'objectif des hadiths, des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, c'est explicitement de donner un sens, d'expliquer, de commenter ce qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran. Et notre prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas pour rien s'il nous avait mis en garde depuis son époque que viendra une époque, on sort légèrement du sujet, on reviendra inshallah. Viendra une époque où les gens diront que ce qu'il y a de le livre d'Allah, nous croyons. Mais ce qui est au-delà du livre d'Allah, cela ne nous concerne pas. Il y a que des gens qui vont croire qu'au Coran, uniquement au Coran. Et lorsqu'on leur parlera des hadiths, des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, vont dire que ça, ce n'est pas le Coran, donc on n'a pas iman sur ça. Mais celui qui prétend ou qui ose dire que ce que le prophète a dit, je ne le considère pas comme révélation, la personne perd son iman. Le simple fait de refuser, volontairement, ce n'est pas par ignorance, le fait de refuser une parole prophétique, c'est kufr. Pour qu'on comprenne bien, le prophète a mis en garde contre ce mouvement qui apparaîtra un jour. Et le prophète le dit à une époque où les sahabas, ils croient, subhanallah, ils croient le prophète, alayhi salatu wassalam, pas en parler, d'accord? Mais le prophète annonce qu'à une époque viendra. Et malheureusement, il y a dans certains pays, il y a des sectes qu'on appelle le Qur'aniyoun. Alhamdulillah, ce genre de mouvement n'est pas arrivé à La Réunion, même en métropole, même en Europe, il n'y a pas, c'est dans certains pays, il y a des gens qui croient uniquement au Coran, et tout ce qui vient en dehors du Coran, tout ce qui s'apparente à la sunna, au hadith, au récit prophétique, ils ne portent pas iman. Ça, c'est un mouvement extrêmement dangereux qui réduit la religion. Alors maintenant, on peut se poser une question, si ces gens ils disent qu'on croit uniquement au Coran, qu'est-ce qui prouve qu'il y a 5 salats par jour? On a des huffaz, bien sûr, mais tous les huffaz ne maîtrisent pas la traduction du Coran ou les commentaires du Coran. Je peux vous donner la garantie que dans le Coran, il n'est pas cité le nom de Zohr, de Fajr de Zohr, Asr al-Maghrib Isha. D'accord? Ou alors dans le Coran, est-ce que Allah Azza wa Jalla nous ordonne d'égorger les bêtes, ce qu'on appelle ici couramment le Qurban? Il n'y a pas tout ça. D'accord? Ça veut dire que le Coran apporte certaines choses et notre prophète alayhi salatu wassalam apporte des choses qui complètent le wahid du Coran. Ce n'est pas pour rien si le prophète, si Allah Ta'ala dit le Coran, wa ma ataakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le prophète vous apporte, alors obéissez, suivez ce que le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans le verset Allah dit, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam ouvre donc sa bouche bénie pour dire une parole, il ne dit pas de son propre gré. Ce n'est pas sa déduction, ce n'est pas qu'il a réfléchi et qu'il pense à telle chose concernant la religion. Et il le dit non. Tout ce que notre prophète alayhi salatu wassalam dit, cela provient directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand c'est une wahi avec les textes et les mots qui viennent de la part d'Allah, c'est le Coran. Quand il y a l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, où le prophète reçoit le wahi, c'est le Coran. Mais en dehors de ces circonstances de révélation qui s'apparentent au Coran, n'importe quelle parole prononcée par le prophète alayhi salatu wassalam, c'est une révélation, c'est une wahi de la part d'Allah. Et wama yantiqu anil hawa, jamais le prophète ne peut parler de la religion de son propre gré. Et donc, ça nous permet, deuxième petite parenthèse, de souligner certaines réactions des personnes de notre communauté, Wallah Musta'an, parfois qui s'apparentent à cette secte de Qur'an. Ce n'est pas pour rien que je n'ai parlé de ça. Il y a un problème de société depuis quelque temps. en rapport avec la loi, en rapport avec la religion, on dira comme on veut. Wallahu musta'an, on n'est plus dans un pays de liberté. Dommage, depuis 1789, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a la question épineuse du niqab, la question épineuse du port du voile intégral. D'accord ? Une loi a été votée, une loi est passée, voilà, la loi a été votée, on ne reviendra plus là-dessus. Maintenant, ce qui est gênant, là on reste dans la religion, là, on ne parle pas de politique, ça ne nous intéresse pas, en tout cas pas de la mosquée. Ce qui est gênant, c'est de voir des personnes de la communauté qui n'ont pas fait d'études de religion et qui se prononcent sur des massas et sur des questions qui sont intrinsèques, qui sont liées à la religion. Alors, si les djuhal, il y en a eu à toutes les époques. Les gens qui disent un peu de n'importe quoi, ça y en a, ça, c'est pas choquant. Mais lorsqu'une personne se permet de parler du Coran, de parler du contenu du Coran, de dire que telle chose existe ou n'existe pas dans la religion, là, c'est un degré d'égarement qui est quand même assez grave pour qu'on le souligne. Et que ces personnes-là doivent bien se remettre en cause que lorsqu'on parle du din, lorsqu'on parle du Coran, ben on parle de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de... Le Coran, c'est quoi? C'est kalamullah. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour une question comme le niqab, qu'on entend des gens dire qu'il n'y a pas de trace du niqab de la religion, parce qu'il n'y a pas de le Coran, ben ils oublient que déjà, dans les tafsirs, il y a pas mal de versets qui s'apparentent au niqab. Donc, on ne va pas entrer des divergences de Mufassirin, mais dans les hadiths, il y en a tellement de hadiths qui parlent de cela. Alors donc, moi, quand j'entends des personnes qui ne sont pas habilitées pour prendre la parole, qui ne sont pas du tout, mais du tout représentatives de la religion, en tout cas, on ne parle pas de représenter la religion auprès des autorités, non, représentatives de la religion en termes de science, en termes de détenteur du ilm shari'i, du Coran et du sunnah, lorsqu'on entend ces gens se prononcer de la sorte, moi, je fais le parallèle avec Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Je suis pas là pour attaquer, pour critiquer qui que ce soit, mais c'est juste pour qu'on comprenne quand on entend ce genre de réaction. Pensez à Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Vous savez, Abu Bakr al-Siddiq, on ne va pas parler d'Abu Bakr, on ne va pas dire qui c'était le premier homme à embrasser l'islam, son niveau de iman, lorsque le prophète al-Siddiq dit que si dans une balance, on mettait le iman d'Abu Bakr, et de l'autre côté de la balance, on mettait le iman de l'humanité tout entier, depuis le premier jusqu'au dernier, à l'exception des Anbiya, le iman d'Abu Bakr pèserait plus lourd que le iman de toute l'humanité. Ça, c'est le hadith du prophète al-Siddiq. Ça nous fait comprendre qui était Abu Bakr. Et malgré son degré de iman, de ilm, de hikmah, de sagesse, Abu Bakr radiallahu anhu avait extrêmement peur de commenter les versets du Coran. Il disait que qui me protégera, si je me souviens bien de ses paroles, la métaphore dit quel arbre me fera de l'ombre le jour de Qiyama, si j'ai osé dire quelque chose qui s'avère erroné sur le livre d'Allah, qui me protégera contre la punition d'Allah. Regardez la précaution d'Abu Bakr al-Siddiq. Pourtant, qui avait plus de science que lui? Personne. Et malgré ça, il a peur de s'aventurer dans les commentaires du Coran. Il va dire ce qu'il maîtrise à 100%. Autrement, il va prendre beaucoup de précautions. De crainte qu'il dise quelque chose, il donne une interprétation du Coran qui s'avère être erronée et qu'Allah Ta'ala le punit le jour de Qiyam. C'est la même raison pour laquelle Abu Bakr al-Siddiq a rapporté très peu de hadiths. Comparé à Abu Hurayra qui a rapporté plus de 5000 hadiths. Et on connaît quand est-ce qu'Abu Hurayra est venu dans l'islam. Rien à voir avec Abu Bakr al-Siddiq. Mais malgré ça, Abu Bakr a rapporté très peu de hadiths. Et parmi les raisons, les ulama disent que parmi ces raisons, c'est le fait qu'Abu Bakr avait peur de se tromper dans la narration, de crainte de subir le châtiment d'Allah. Ça, c'était l'excès, subhanallah, de précaution qui prouve la taqwa de cet homme. Alors, un homme de ce degré qui n'ose pas se prononcer alors que lui, il a vu le wahi, il a vu la révélation descendre devant ses yeux de nos jours, comment une personne peut oser dire qu'il n'y a pas de le Coran, qu'il n'y a pas de la religion, c'est un héritage culturel, ça vient de tel pays, a'oudhu billahi minash shaitan ar-rajim. Ça, il faut faire extrêmement attention. La question n'est pas de savoir si je suis pour le niqab ou contre le niqab. C'est pas ça la question. De toute façon, qu'on se pose ou qu'on ne se le pose pas, la question n'a plus raison d'être parce qu'une loi a été votée, c'est fini. D'accord? On ne parle pas. Je peux ne pas être d'accord, par exemple, moi en tant que mari, père de famille, je peux décider que non. Je pense qu'au 21e siècle, dans un pays comme ici, ce n'est pas adapté. C'est hors contexte. Je vais dire à ma femme de ne pas porter niqab, ma fille de ne pas porter niqab. C'est possible. Mais là n'est pas la question. Le problème qui est épineux, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne se prononce sur quelque chose qui est intrinsèque à la religion en faisant référence aux sources, en parlant de la religion. Cela n'existe pas dans la religion. Que c'est un phénomène culturel et non pas culturel. Là, c'est extrêmement grave. Là, la personne marche sur des œufs. Parce que le prophète, met en garde contre celui qui ose dire quelque chose qui mentira volontairement sur le prophète. Celui qui m'attribue une parole que je n'ai pas dit, mais qu'il prépare dès maintenant, de ce dunya, qu'il prépare sa future place de le jahannam. On n'est pas là, bien sûr. On n'est pas là, je ne dis pas que ces personnes le font, mais c'est par ignorance. C'est parce que, avant de se prononcer, on peut se tromper dans un masla. Quelqu'un vous demande, est-ce qu'on peut manger ça? Bon, du coup, on a dit oui, et puis c'était pas vrai. Ça arrive de se tromper, il faut éviter, mais là, on peut se tromper, d'accord? Mais quand on analyse la religion, on fait référence aux textes qui sont à la base de la religion, et je déduis, j'avance la thèse que cela n'existe pas dans la religion, je fais une erreur extrêmement grave parce que j'ai jugé les révélations et j'ai osé me prononcer sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Ce n'est pas comme se tromper dans un masla, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est de dire que dans les paroles d'Allah, telle est parole de son prophète, telle action n'existe pas. Alors ces mêmes personnes pourraient demander, mais pourquoi vous coupez bas tous les bakrides? Pourquoi vous faites telle chose, pourquoi vous faites 5 salats par jour pour ceux qui le font, Allah musta'an, etc. Alors que ben, réellement, de le Coran, il n'y a pas mention du Coran, il n'y a pas mention de telle action. Donc il faut qu'on comprenne bien ça, mes chers frères, et qu'on fasse passer le message. Je peux ne pas supporter dans le sens de cautionner. Je peux ne pas cautionner le port du voile. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est quoi? La gravité, c'est quand quelqu'un se prononce sans connaissance à propos de la religion, là la personne fait une erreur extrêmement grave. Et une deuxième chose, maintenant qu'on a abordé le sujet autant qu'on complète, on dit des choses qui restent dans le contexte religieux, le fait d'apprécier ou de ne pas apprécier n'est pas le problème. Le fait de cautionner, de tolérer ou de ne pas tolérer, ce n'est pas le problème. Le problème c'est quoi? C'est que dans la communauté, au sein de la communauté, nous entendons des personnes tenir des propos extrêmement blessants à l'égard des femmes qui portent le niqab. Et parfois, c'est des insultes. J'ai un ami, un collègue alim d'une autre ville, qui me rapporte, les termes sont grossiers et crus, je vous les rapporte comme je l'ai entendu, et qui était avec son épouse dans une grande surface, et c'est une dame musulmane, qui est venue voir son épouse qui portait le niqab, c'était avant le 11, dit que bientôt, on va voir qu'on a sous notre gueule. Va voir notre gueule bientôt. Excusez-moi pour l'expression. Mais moi, je me demande, est-ce que ce n'est pas des paroles qui frisent le kufr là? Parce qu'on est en train de faire istihza ou bidin. On est en train de se moquer, on est en train de prendre à la dérision une action qui appartient à la religion. Là encore, je le répète, je peux ne pas cautionner le port du niqab, mais ne pas insulter la personne qui le porte, ne pas insulter une action qui est intrinsèque à la religion. Là, on est en train d'insulter quelque chose qu'Allah a révélé. Là, c'est un péché extrêmement grave. Et ce qui est choquant, c'est que depuis quelque temps, nos sœurs et nos mères qui essaient de s'adapter peu à peu à ce qui va être appliqué dans quelque temps, mais qui essaient de faire des efforts, se font insulter gratuitement en ville ou différents endroits. Et ça, on ne doit pas tolérer. Même si moi je ne porte pas, enfin, moi je ne porte pas bien sûr, même si ma femme ne porte pas, même si ma fille ne porte pas, même si ma mère ne porte pas, mais on ne peut pas, nous, musulmans, insulter une sœur en islam qui a décidé de porter ce voile. Et je ne peux pas laisser les gens insulter une personne non plus, parce que ça c'est la relation de ukhuwa fil islam, la fraternité dans l'islam, qui fait que je ne peux pas laisser une de mes sœurs en islam se faire insulter comme ça, ou moi-même agir de la sorte, d'humilier une personne. Parce que, et puis là, on voit, subhanallah, on voit qu'à notre époque, les gens ne réfléchissent plus. On entend sur certaines radios, vraiment un niveau au-dessous des égouts, on entend des propos qui viennent, qui ont été importés, qui ont été mis dans un conteneur, amenés ici, dépotés et mis en rayon, qui viennent directement de la métropole. Ce n'est pas du tout de la mentalité des gens d'ici. On entend des gens de la Réunion qui disent que celles qui le portent le font par pure provocation. Mon Dieu! Mais est-ce qu'elles ont leur temps à perdre d'aller provoquer les gens en portant un niqab? Mais franchement, ce genre de discours, cela vient directement, ça a été mis sous vide et surgelé, ça vient ici, on l'a passé au micro-ondes, on l'a intégré et on le dit. Ça, c'est des gens qui, lorsqu'il sort du travail, il s'assoit les deux jambes écartées sur leur fauteuil relax avec les pieds sur le pouf et avec leur popcorn, leur truc, ils regardent la télé jusqu'à ce qu'ils s'endorment. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne savent plus réfléchir. C'est des gens qui ne lisent plus l'histoire des religions, qui ne connaissent plus les cultures. Ils ne font que suivre intégralement ce qu'ils captent dans leur chaîne de satellite ou qu'ils lisent sur Internet. Ça, c'est un phénomène de société. C'est la désinformation. Et il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, en sont victimes. Donc, ce qu'on a voulu dire à travers cette petite parenthèse sur le niqab, c'est de 1, faire très attention. Aimer, ne pas aimer, ce n'est pas le problème. La loi est votée, la loi est votée. Mais ne pas insulter, ne pas laisser nos sœurs se faire insulter et surtout ne pas se prononcer sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ne pas faire référence au Coran ou à la Sunna en disant que telle chose n'existe pas. Il faudrait avant tout passer quelques années sur les bancs du madrasa et de lire 3 ou 4 000 hadiths et d'écouter pendant 4 ans les tafsirs des siparas du Coran pour enfin pouvoir se prononcer sur la religion. On peut représenter la religion par d'autres biais, mais quand on parle du wahyayn, on parle des révélations du Coran et de la Sunna, il faut faire extrêmement attention. Quand on ne sait pas, on passe la main. Parce que sinon, il n'y a pas de conséquences directes pour nous. Mais c'est pour la personne, quand on parle de ça, c'est pour ce musulman qui, lui, il pense qu'il a parlé au nom de l'islam, il fait son umrah, il fait son hajj, il fait ses salat. Mais attention, peut-être que par cette parole, ce qu'il a dit comme parole d'égarement, ça peut lui causer énormément de problèmes le jour de Qiyamah. Et vous savez, mes chers frères, le jour de Qiyamah, on ne va pas dire Allah Azza wa Jalla qu'il y avait une loi, cela me permettait de dire ce que je voulais. Il n'y a plus les autorités, il n'y a plus tout ça pour vous protéger le jour de Qiyamah. Le jour de Qiyamah, c'est entre le musulman et son créateur. Laïsa baynahu wa baynahu tarjuman. Il n'y a même pas une personne qui rapporte les paroles entre Allah et la personne qui est jugée. C'est un dialogue direct, chaque musulman, chaque être humain avec son créateur. Et c'est là que ce qui est intérieurement dans les cœurs vont se révéler. C'est pour ça qu'avant de prononcer une parole, avant de prendre une position, bien réfléchir. Attention, est-ce que ce que je dis, je suis capable de le supporter le jour du Qiyamah? Est-ce que ce que je vais dire, j'ai les épaules assez solides pour le répéter devant Allah le jour du Qiyamah? Oh Allah, il n'y avait pas d'attarivé. Il faut faire extrêmement attention et faire passer le message. Donc tout ça pour revenir au fait que le hadith décrit bien ce que Allah Ta'ala dit dans le Coran, quand certains signes d'Allah viendront, à la fin des temps, et là, il n'y aura plus de iman possible. Et le prophète l'explique dans le hadith que 3 signes, lorsqu'ils viendront, le iman n'apportera plus rien à la personne après ça, parce que la personne aura déjà vu des signes évidents de la présence d'Allah, de la création d'Allah. Ce ne sera plus un iman bil-rayb, ce sera un iman bil-shahid, il portera foi, parce qu'il a vu quelque chose direct qui vient de la part d'Allah, azza wa jalla. Et ces 3 signes, comme on l'a dit, c'est Ad-Dajjal, la bête, et lorsque le soleil se lèvera, Al-Wasr. Les ulama disent également que Dajjal ne trouve pas sa place dans le Coran parce qu'il a osé proclamer qu'il est Allah. Dajjal ne trouve pas sa place dans le Coran parce qu'il a osé proclamer être Dieu. C'est pour ça que ihanatan lahu, tellement sa position elle est détestable qu'Allah Ta'ala n'a même pas cité son nom dans le Coran. Ça c'est une autre raison, ça c'est une raison, c'est pas cette personne. Est-ce que ça vous va? Rachid, pas de question là-dessus? Ah, mashallah, je croyais que un pharisien qui réfléchit, alhamdulillah, je ne sais pas qui en avait. Donc, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que, très souvent, je n'attendais pas cette réponse, alhamdulillah, elle a réagi comme il le fallait. Très souvent, quand un alim dit quelque chose, ben on le croit, c'est « Ah oui, merci, ah d'accord ». Et malheureusement, la relation qu'il y a entre le alim et le awam, et le musulman qui pose des questions, c'est juste, on demande des infos, on nous donne des infos et on accepte et on met en pratique ou on ne met pas en pratique et c'est tout. Il n'y a plus de réel dialogue. C'est que le musulman, subhanallah, il doit avoir la capacité de réfléchir, de poser des questions. Quand un alim explique quelque chose, il n'est pas irrespectueux de remettre en cause ce qu'il a dit. Voilà, vous avez dit telle chose, mais pourtant dans tel hadith il dit telle chose, mais est-ce qu'il y a des sources authentiques, etc. Il faut avoir cette réaction de bien réfléchir. Il ne faut pas accepter une information lorsqu'on n'est pas convaincu. Si l'explication est claire, alhamdulillah, nourun ala nour, le alim vous a donné l'explication qu'il fallait, avec les sources, c'est cohérent, c'est bon, je le mets en pratique. Mais si le Moïssa vous donne une explication qui n'est pas claire, qui vous paraît un peu à côté de la plaque, et vous vous posez des questions et vous n'êtes pas convaincu, Mais beaucoup de gens, ils pensent que si je lui pose une question sur l'authenticité, sur la source ou sur le sens profond de ce qu'il a dit, ben c'est un manque de respect. Ah, c'est immolissable, il ne faut pas poser des questions, faut pas mettre, c'est comme si on met en doute. Non, quand vous allez voir un médecin, d'accord, il vous dit que ben voilà, bon, par rapport à telle opération, ben telle chose, hein, vos artères sont bouchées, sujet telle intervention, est-ce qu'on va dire, ben oui, d'accord, on va le faire. Non, on va poser des questions, mais docteur, vous êtes sûr? Ah, attendez, un petit traitement, peut-être quelque chose pour faire fondre la graisse, ou un peu de sport, je fais un régime d'un mois. On essaie de trouver quelque chose pour être convaincu de ce qu'on va faire, de ce qu'on nous propose. Mais dans le dîn, je ne dis pas que c'est pareil, mais dans un sens, quand on demande une explication, quand on vous donne une explication, il faut être convaincu. Parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre en pratique quelque chose sur lequel, une chose pour laquelle on n'a pas réellement compris le sens. Mettre en pratique une action dont on ne comprend pas le sens, c'est-à-dire qu'on a un doute, et il n'y aura pas le yakin, il n'y aura pas la réalité de l'action qui va entrer dans le cœur, et l'objectif ne sera pas atteint. Donc quand on entend quelque chose, il n'y a pas de mal à poser des questions sur la religion, parce que dans le dîn, il n'y a pas de sujet tabou. On peut poser n'importe quelle question sur le dîn, il y aura toujours une réponse si tel savant ne peut pas nous donner, un autre ou quelqu'un de l'extérieur ou quelque chose. Mais il faut être convaincu de tout ce qu'on met en pratique. Et quand on a un doute sur une action, ou sur une parole, ou sur un geste qu'on nous a appris, il ne faut pas hésiter à poser la question jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Alors justement, comme Rachid nous l'a dit brillamment, d'accord, maintenant vous dites que Dajjal a proclamé être Dieu, va proclamer être Dieu, être Allah, c'est pour ça qu'on ne le cite même pas dans le Coran, « Ihana tanahu », mais Pharaon, effectivement, lui aussi, à son époque, on l'a dit en introduction, a proclamé être Dieu. Et le Mufassirin, rahimahoullah, donne comme réponse également, hein, là on parle du mot, tout à l'heure on a dit le sens était présent, là on parle du mot « Dajjal hein, », le mot, littéralement, ne vient pas du Coran, mais Pharaon, lui, il a proclamé être Dieu, mais le Mufassirin disent que Pharaon, c'était à une époque qui est passée. Il l'a proclamé, et Allah cite son histoire pour que les musulmans ou les Ahl al-Kitab également voient qu'est-ce qu'il en est advenu de cet homme qui a osé proclamer être Dieu, parce que l'histoire de Pharaon est terminée. Et dans les versets de Pharaon, Allah explique quel a été son châtiment, son azab, et comment il sera ressuscité le jour de Qiyama, et quel châtiment il subit en ce moment, pour que ce soit une leçon pour tous ceux qui viennent après. Tandis que Dajjal, c'est un événement futur. Un événement qui, à l'époque où le Coran était révélé, hein, ne s'était pas encore, n'était pas encore arrivé. Hein, et donc, c'est quelque chose qui va venir dans le futur. C'est un homme qui annoncera, à la différence de Pharaon, qui lui l'a déjà fait et a déjà été puni dans ce dunya. On va continuer, Inch'Allah, encore 2 minutes. 34 minutes, encore 2 minutes, Inch'Allah. Les questions, Inch'Allah, c'est après. Parce qu'après aussi, apparemment, il y a un règlement que dans la masjid, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat. Mais les questions, c'est avec plaisir jusqu'à Fajr. Mais dès que le programme est fini, Inch'Allah, toute la nuit. D'accord? Alors donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, enfin, le gros du sujet d'aujourd'hui, c'était surtout de parler de la description physique de Dajjal. Mais avant cela, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, quand on parle de Isa alayhi salam, on parle du Al-Masih. Et de le Coran, Al-Masih ibn Maryam, le Masih. D'accord? Et quand on parle de Dajjal également, on parle de Al-Masih al-Dajjal. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un même terme pour désigner deux personnes qui ont des objectifs totalement, je ne dis pas différents, mais totalement opposés. Et des gens qui vont être présents à la même époque pour un objectif totalement opposé. Alors le sens de Masih, Al-Mahdi, Isa alayhi salam a été surnommé Masih parce que Bimasih al-Yadi, en touchant une personne avec sa main, Allah Ta'ala pouvait guérir quelqu'un. Allah Ta'ala donnait la shifa, la santé à une personne uniquement par l'impact. Position, non, on dit imposition des mains, quand on touche avec les mains, on est tellement occupé avec les impositions en ce moment qu'on parle d'imposition. Hein, lorsque Isa alayhi salam touchait une personne, bi qudratillah, par la grâce d'Allah, que la personne soit aveugle ou lépreuse ou autre chose, la personne, et même une personne décédée, Isa alayhi salam le touchait, Allah ta'ala lui redonnait vie ou lui accordait la santé. On appelle ça bi mas'h al-yad, en passant la main, d'où le nom Masih. Vous voyez la même racine, le mim, le signe et le hé. Bimasih al-yad, en passant sa main, Isa alayhi salam, accorder la vie ou alors la shifa, la santé, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où son surnom Al-Masih. D'accord? Et Al-Dajjal également, il a un pouvoir qui est, je ne dis pas similaire, mais presque identique à celui de Isa alayhi salam. Allah ta'ala lui donne un pouvoir presque équivalent, la possibilité, entre autres, comme on a vu tout à l'heure, de redonner la vie à une personne qui était décédée. Mais là, c'est dans un autre but. Une aqida, ils appellent ça un istikhraj, c'est-à-dire un miracle qui est accompli dans le but d'éprouver les gens. Mais le qudra vient d'Allah, le pouvoir vient d'Allah. C'est pas que, c'est-à-dire que Isa, il a son pouvoir de la part d'Allah, et Dajjal, il a son pouvoir de la part de Shaytan. Non, du tout. C'est Allah même qui donne le pouvoir à Dajjal d'accomplir ses miracles. Et ça, on avait expliqué la première fois dans le leçon de Min Sharri Ma Khalaq, que Dajjal fait partie des mauvaises créatures, enfin, des Min Sharri Ma Khalaq, des choses mauvaises qu'Allah a créées, qui ont un but néfaste de ce dunya, mais un but, le but c'est d'éprouver les gens. C'est pour ça que Ad-Dajjal également porte le nom, pardon, de Messie. Et dans, en français, et dans la croyance catholique également, on parle de Christ et on parle d'Antéchrist. D'accord ? Et ça c'est une croyance commune. Hein. Et on explique un petit peu par rapport aux fêtes de Pâques, hein, qu'il y a énormément de croyances communes entre musulmans et chrétiens. Et ce n'est pas pour rien si Allah Ta'ala dit au Coran, que les gens les plus proches des musulmans, ce sont ceux qui se proclament comme étant des nasara, c'est les catholiques, les gens de religion, on ne dit pas catholiques, mais les gens de religion chrétienne, d'une manière générale. Et comme on l'a vu l'autre fois aussi, ce n'est pas pour rien si à la fin des temps, il y aura l'union entre musulmans et chrétiens, hein, dans certains affrontements. Et également, lorsque Isa alayhi salam retournera de ce dunya également, les chrétiens présents à cette époque vont reconnaître leur Messie, vont reconnaître leur prophète, et ils vont porter iman à Isa alayhi salam par rapport à ce que Isa leur explique sur la véracité du crucifix et sur l'obéissance envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Masih al-Huda, Masih al-Balala. Et deuxième point, on va s'arrêter là avec ça. Dajjal, le terme littéral Dajjal, quand on analyse Dajjal, on trouve trois lettres à la racine de Dal, le Jim et le Lam. Dajjal, c'est Al-Kadib. Dajjal, c'est synonyme de mensonge ou la personne qui trompe les gens. Parce que Dajjal sera le plus grand des menteurs de l'humanité et Dajjal trompera les gens par le biais des pouvoirs qu'Allah lui a donnés. Hein, il fera croire aux gens qu'il est créateur, etc. Donc ça c'est en gros l'étymologie de Dajjal et l'étymologie de Al-Masih. Alors, on va voir, Inch'Allah, le reste dans deux semaines, Inch'Allah, ce qu'il nous reste à voir, c'est la description physique précise de Dajjal et le sujet qu'on devait aborder aujourd'hui. Est-ce que Dajjal est déjà présent? Pour l'imam Mehdi, on a dit personne ne sait. Peut-être est-il né, peut-être n'est-il pas encore né, Allah seul le sait. Oui, Allah seul le sait réellement, et même lui ne connaît pas. Si la personne sera un jour Mehdi, la personne vit une vie normale. La seule chose, le seul signe, c'est qu'il est descendant du prophète, alayhi salatu wassalam, d'accord? Mais lui-même ne sait pas encore qu'il sera désigné par Allah pour être le Mehdi. Il le sera à une époque où les gens l'amèneront de force près de la Kaaba pour faire le bay'an, chose qu'on avait déjà expliquée. Par contre, concernant Ad-Dajjal, ce qu'on est sûr, c'est que Dajjal a déjà été créé et Dajjal existe déjà sur ce dunya. Il était présent depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith très long, connu comme hadith al-Jassasa, lorsqu'il y avait un sahaba qui a été en mer, qui a été sur une île et qu'il a vu une créature étrange, il a posé des questions et que la créature lui a posé quelques questions, est-ce que tel signe se sont déjà produits de ce dunya, et là il a annoncé que moi je suis Dajjal, il viendra une époque où je viendrai, etc., etc. Et donc on verra donc la prochaine fois l'histoire de Hadith al-Jassasa, hadith authentique, hein, qui prouve que Dajjal a déjà été créé par Allah et qu'il existe déjà et qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il a annoncé à ce sahaba quelle était sa mission et les descriptions concordaient avec la description que le prophète avait reçue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce qu'on va voir la prochaine fois principalement c'est ça, et la description physique de Dajjal et surtout hein, ce qui est vraiment apparent sur Dajjal concernant ses yeux et ce qui est écrit sur son front. Et comme on a passé un peu de temps d'autres choses aujourd'hui, si on pourrait aller plus vite, hein, on pourrait voir les 1, 2, 3, 4 conditions sine qua non, les 4 conditions pour la venue de Dajjal, les 4 choses qui doivent se produire, mis à part l'imam Mehdi, là on passe à une autre étape, les 4 choses qui doivent se produire après l'imam Mehdi pour que Dajjal vienne. Comme un tawfiq illa billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rappelle que apparemment demain il y a une conférence à l'hôtel de ville, c'est bien demain, hein, qui est la personne, je ne sais pas, mais le sujet paraît être intéressant. Si la personne se réfère inchallah au Coran et la Sunna, le sujet abordé c'est sur la position, la place de Isa alayhi salam, de Jésus dans notre dîn, et la place de Mariam, de Marie dans notre religion. C'est un sujet qui me paraît être intéressant. Donc, si quelqu'un a la possibilité de s'y rendre demain à 18h30, hein, c'est quelque chose qui peut être que profitable. Parce que très souvent, on a une petite connaissance de la religion. Ce qu'on maîtrise de notre dîn, c'est surtout les maslahs, Masla Masaïd, ça on connaît, mais l'aqida, la croyance elle-même, très souvent on est assez éloigné. Maintenant, une étude comparative entre les religions, ça c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça c'est extrêmement important pour comprendre quelle est notre position dans l'aqida et comprendre les aqida des autres personnes. Donc si quelqu'un peut y assister demain, ce sera profitable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.